Allez au-delà des limites sur Altitude FM avec Alexis du comité départemental handisport Haute-Garonne.
Bonjour à tous, Alexis du comité handisport. On se retrouve comme chaque mardi pour la chronique et on poursuit notre thématique du mois de mars sur le mois des droits des femmes avec cette semaine une nouvelle thématique qui sera la suivante pour aujourd'hui, des luttes pour l'égalité, évolution des droits des femmes et des personnes en situation de handicap. Donc comme la semaine dernière, notre invitée spéciale Emma. Salut Emma.
Salut.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Oui, ça va, super, merci. Du coup Emma, de quoi on va parler aujourd'hui ?
Donc aujourd'hui, on va croiser deux histoires qu'on étudie souvent de manière séparée. Donc il y a la lutte pour les droits des femmes et celle pour les droits des personnes en situation de handicap. Donc en fait, ces combats, on va les appeler comme ça, ils ont des trajectoires différentes, mais il y a un point commun majeur. En fait, pendant des siècles, que ce soit les femmes ou les personnes en situation de handicap, on les a considérées comme incapables de décider par elles-mêmes. Donc par exemple, les femmes, elles étaient juridiquement sous l'autorité d'un père ou d'un mari. Et en ce qui concerne les personnes en situation de handicap, elles étaient perçues à travers la dépendance, l'assistance, voire l'enfermement institutionnel. Donc c'est des personnes dont on a retiré en fait la capacité d'agir. Donc dans les deux cas, l'autonomie, la citoyenneté et la maîtrise de leur corps ont été limitées.
Donc si on reprend un petit peu l'historique, est-ce qu'au niveau des droits des femmes et des personnes en situation de handicap, ça a toujours été linéaire ?
Alors, c'est pas vraiment linéaire, ça c'est une idée assez reçue. En fait, l'histoire des droits, c'est jamais une progression continue. Si on prend l'exemple du divorce, en fait, le divorce, il a été instauré en 1792 pendant la Révolution française. Et en fait, il a été supprimé en 1816 sous la Restauration, il a été réintroduit bien plus tard. Et ensuite, par exemple, le droit à l'avortement, qui a été acquis en 1975, en fait, il reste aujourd'hui très fragilisé dans plusieurs pays, par exemple la Pologne, la Hongrie. Pareil pour le handicap. L'accessibilité est inscrite dans la loi, notamment avec la loi de 2005, on y reviendra plus tard. Mais en fait, l'application est très partielle. Donc en fait, les luttes pour les droits nous rappellent que en fait, ces droits ne sont jamais définitivement acquis.
Et du coup, du côté des femmes, quelles sont les grandes avancées ?
Alors, il y a eu de nombreuses avancées au XXe siècle. Par exemple, en 1944, les femmes elles ont obtenu le droit de vote. En 1965, elles ont eu la possibilité d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Il y a eu beaucoup d'autres lois aussi qui permettent aux femmes de travailler sans l'autorisation du mari. Ensuite, en 1967, il y a une loi qui autorise la contraception. Et en 1975, alors là, c'est une loi qui est plus connue, c'est la loi portée par Simone Veil qui légalise l'IVG. Ces conquêtes, elles s'inscrivent également dans une dynamique internationale parce que l'ONU a adopté en 1979 une convention afin d'éliminer les discriminations envers les femmes. Et en fait, le mouvement féministe, il s'est structuré en plusieurs vagues. Donc en fait, il y a une première vague au début du XXe siècle qui avait pour objectif de conquérir des droits civiques, par exemple avec les suffragettes. Ensuite, il y a une deuxième vague dans les années 1960-1970 avec le slogan « Le personnel est politique ». Puis une troisième vague à partir des années 1990 qui intègre des questions d'intersectionnalité, de genre et de sexualité.
Et donc du côté des personnes en situation de handicap, est-ce qu'il y a eu des avancées majeures ?
Bien sûr. Donc en fait, le handicap, il a souvent été traité sous l'angle de la charité, du médical. Et du coup, c'est après les deux guerres mondiales qu'il y a commencé à avoir des avancées parce que en fait, la question des mutilés de guerre a posé beaucoup de questions et du coup, elle a introduit l'idée de réparation. À la suite, on a adopté beaucoup de lois, mais l'une des lois majeures, c'est celle du 11 février 2005 qui porte sur l'égalité des droits et des chances. Et en fait, elle redéfinit le handicap et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de personnes en situation de handicap. Puisqu'en fait, on considère que le handicap, c'est une interaction entre une personne et son environnement. Donc en fait, on passe d'une logique un peu compassionnelle à une logique de droits fondamentaux. Et aussi, de la même manière, par rapport à cette définition, on va passer d'une logique médicale à une logique un peu plus sociale, où en fait, le handicap n'est pas forcément la personne qui est handicapée, mais c'est plus l'environnement qui crée une situation de handicap. Donc du coup, cette loi, en fait, elle repose sur quatre piliers. Donc comme je viens de le dire, une nouvelle définition du handicap, centrée sur l'environnement. Ensuite, l'accessibilité obligatoire des bâtiments, des transports, surtout les bâtiments publics. Ensuite, il y a le droit à la compensation qui est introduit avec la création des maisons départementales des personnes handicapées et de la prestation de compensation du handicap. Et il y a aussi un pan qui est très important sur l'école inclusive et l'insertion professionnelle. Par exemple, il y a l'OETH qui est introduite, donc c'est l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et qui fixe en fait une obligation d'employer des personnes en situation de handicap à 6%. Et du coup, en 2006, au niveau international, il y a une convention internationale relative aux droits des personnes handicapées qui renforce ce cadre et qui a été adopté par l'ONU.
Et du coup, qui sont les acteurs de ces luttes ?
Alors, en fait, les acteurs en général, c'est les personnes concernées, les associations. Parce qu'en fait, ces droits, il faut les conquérir. Donc, pour les droits des femmes, on a par exemple les suffragettes, le mouvement de libération des femmes et beaucoup d'associations féministes, des juristes, des militantes. Il y a aussi certaines figures institutionnelles, par exemple Simone Veil, qui est très connue, qui a joué un rôle clé. Mais il faut rappeler que c'est surtout les personnes concernées qui vont lutter pour acquérir ces droits et que c'est ensuite les personnes politiques qui agissent. En ce qui concerne le handicap, il y a des associations comme l'APF, les fédérations de mutilés du travail. Enfin, il y a beaucoup d'associations qui ont porté des revendications. Et en fait, ça a permis à ce qu'aujourd'hui, on ne parle plus seulement de protection, mais en fait de participation pleine et entière. Et en fait, l'élément central, comme j'ai dit au début, en fait, c'est que les personnes concernées essayent de reprendre la parole alors qu'elle aurait été confisquée. Et du coup, ça devient un levier politique puissant.
Et donc aujourd'hui, est-ce que ces droits, ils sont réellement appliqués ou pas?
Et c'est là que c'est une question qui est très pertinente parce qu'en fait, malgré les avancées des droits, en fait, ben, c'est pas toujours le cas. Par exemple, si on prend les femmes, ben, les inégalités salariales, elles existent toujours. Il y a toujours beaucoup de violences sexistes et sexuelles, même si elles sont pénalement répréhensibles. Pareil concernant le partage des tâches domestiques, ça reste très inégalitaire. Et si on prend la situation des personnes en situation de handicap, leur taux d'emploi, en fait, il reste très faible, il est autour de 45%. On voit que l'application de la loi de 2005, ben, c'est encore compliqué. Pareil, en ce qui concerne l'accessibilité des transports et des bâtiments, c'est encore incomplet. On peut prendre un chiffre pour exemple, il y a seulement 60% des grandes gares nationales qui sont réellement accessibles. Et en fait, les objectifs de la loi de 2005, ils ont été revus à la baisse, parce qu'en fait, la loi Elan de 2018, elle a réduit l'obligation d'accessibilité des logements neufs à 20% en habitat collectif, alors que c'était 100% dans la loi de 2005. Et en 2023, le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe, il a estimé que la France, elle ne respectait pas pleinement ses engagements en matière d'accessibilité et d'inclusion. Et c'est ce qui est prouvé par les chiffres. On parle d'égalité formelle, mais l'égalité réelle, en fait, elle reste encore à construire.
Et du coup, quelles seraient les priorités et les objectifs à l'avenir?
Qu'il y a plusieurs axes qui apparaissent essentiels. Comme je viens d'en parler, du coup, il faudrait que l'accessibilité soit totalement effective. Il faut aussi réduire les écarts économiques, donc les réduire réellement, pas uniquement dans la loi. Ça concerne les personnes en situation de handicap comme les femmes. Il y a la lutte contre les violences aussi, la reconnaissance pleine de l'autonomie décisionnelle. Et ensuite, il faudrait une meilleure prise en compte des femmes en situation de handicap dans les politiques publiques, vu qu'en général, on les envisage comme deux entités séparées. Donc aujourd'hui, on parle plus d'accessibilité universelle, d'inclusion. Les nouvelles générations, elles intègrent davantage la notion d'intersectionnalité. En fait, c'est le fait de comprendre que les discriminations, elles se croisent et elles se renforcent. Donc il y a quand même des évolutions positives, mais il reste encore énormément de choses à faire. Et pour conclure, du coup, ces deux histoires, en fait, elles nous apprennent une chose fondamentale qui relève de l'intime, donc le corps, la maternité, l'autonomie, l'accès à l'espace public. C'est profondément politique. En fait, les droits y progressent lorsque les personnes concernées elles prennent la parole et que la société elle accepte aussi de remettre en question ces normes et qu'elle écoute les personnes concernées. C'est ça qui est important. Donc l'égalité, en fait, c'est pas un état qui est atteint une fois pour toutes, c'est plus un processus qui demande en fait toujours une certaine vigilance et de l'engagement.
Mais merci beaucoup pour ces compléments, c'est très très intéressant. On a hâte d'en savoir plus ce soir pour la table ronde qui se déroulera dans nos locaux au 28 rue Hermès à Ramonville. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, Emma sera une des participantes principales sur cette table ronde avec des invités. Donc n'hésitez pas à vous inscrire avant ce soir si vous souhaitez approfondir un peu plus la thématique et échanger avec les intervenants. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Merci à toi pour toutes ces informations et ces compléments.
Et bien merci.
Et on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Au revoir.
Retrouvez-nous sur handisporthaute-garonne.org et les réseaux sociaux et dépassez vos limites.